Alors, cher camarade Savitri Devi, racontez-nous un peu les grandes étapes de votre vie
Oui.
et les anecdotes qui vous semblent le plus chères.
Oui. Alors, je crois que la première chose à dire, c'est que toute ma vie, depuis la plus tendre enfance, j'ai toujours aimé les bêtes. Et je les ai aimées même plus que les gens. Plus que les gens du commun. Il y avait des gens que j'aimais beaucoup, évidemment. Mais une de mes amies, beaucoup plus tard, m'a dit, si on t'avait dit, tu ne verras plus tes parents, on te mettra en quelque part en pension, mais tu garderas le chat. Ou bien, on te prendra le chat et tu resteras avec tes parents. Vous auriez, m'a dit cet ami, vous auriez certainement préféré garder le chat. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il n'y a rien que j'aurais été plus, n'est-ce pas, plus fâchée que si on me séparait d'une bête que j'aimais. J'aimais ma mère plus que mon père. Et ça a continué plus tard, pendant très longtemps, jusqu'à la mort de mon père. Je l'aimais bien. J'avais cependant beaucoup de choses en commun avec mon père. J'avais par exemple l'amour des félins. Mon père adorait les chats, plus que ma mère. Ma mère préférait les chiens, mais elle avait toujours un chat. Et mon père, ce qui m'a séparé de lui, c'est pendant la Première Guerre, nos dissentiments à propos de la Grèce. Il n'était grec qu'en partie. Il avait sa mère et sa grand-mère paternelle étaient italiennes, piémontaises toutes les deux. Il était né en France, il était donc français, et son père était naturalisé français. Son père. Mais son grand-père était d'origine grecque, venant de Constantinople. Enfin, il s'intéressait à la Grèce pendant la Première Guerre. Et il voulait que la Grèce entrât aux côtés des Alliés dans la guerre, parce qu'il pensait qu'il y avait 2 millions de Grecs, d'Asie mineure, qui étaient détachés de la Grèce, si seulement ils pouvaient revenir, si seulement ça pouvait faire un grand État. Bon. Seulement le roi Constantin, que j'aimais beaucoup parce que je me rappelais très bien de la guerre des Balkans pendant la Seconde Guerre. La guerre des Balkans de 1912 et 1913. Et en 1913, ce roi Constantin, qui était à ce moment-là prince héritier, était entré triomphalement à Salonique, le jour même de la fête de la Saint-Dimitri, qui est le patron de la ville de Salonique. Et ce que le roi Constantin disait, c'était pour moi sacré, c'était le roi. Et ça m'a séparé de mon père, la première chose qui m'a séparé vraiment de mon père. Mais avant ça, j'étais très bien avec ma mère. Tout à fait au début, je voulais raconter cet épisode-là. Tout à fait au début, j'avais 6 ans quand je suis allée à l'école. J'ai des souvenirs plus anciens. J'ai des souvenirs que quand j'avais entre 1 an et demi et 2 ans, des souvenirs de ma poussette. Je me rappelle très bien de ma poussette, je me rappelle très bien de la disposition de notre appartement dans lequel nous sommes venus. Je ne me rappelle pas du déménagement, je ne me rappelle pas de l'avenue. Je me rappelle de l'appartement, des meubles, de chaque petit détail de l'appartement, comme si c'était aujourd'hui. Et là, nous sommes venus, j'avais 15 mois, l'époque où j'ai mis ma première dent, et 13 ans tard, et nous sommes partis, j'avais peut-être 2 ans et demi. Et nous sommes allés de là, du 107 rue Bossuet au 3e, au 27 boulevard des Brotteaux au 4e. Et là, une fois, j'avais 6 ans et quelque chose, j'allais déjà à l'école. C'était la première année d'école. Ma mère voulait aller au cinéma voir Covalis. Elle m'a demandé à ses voisines s'il n'y en avait pas une qui voulait me garder. Les voisines nous disent certainement pas. Elle est beaucoup trop insupportable, votre fille, Madame Portas. On ne peut pas la voir. Elle a été forcée de m'emmener voir Covadis au cinéma Royal. J'ai vu Covadis et j'ai vu le coulage du Titanic. C'est dans les actualités. C'était le 12 avril 1912. Je me rappelle très bien le coulage du Titanic. Je me rappelle ces pauvres troisième classe qu'on n'a pas essayé de sauver et qui essayaient de briser leurs barreaux, les troisièmes et les quatrièmes. On n'a sauvé que les passagers de première et de deuxième, ceux qui payaient. Il y avait environ 1500 personnes à bord, on en a sauvé 700. Non, il y avait 2100 personnes à bord, on en a sauvé le tiers. Les riches, seulement. Et alors je me rappelle l'histoire de cette Anglaise qui aurait pu être sauvée, on lui a offert une place. Mais elle n'a pas accepté la place parce qu'on ne lui a pas permis de prendre son chien. Et moi je dis à ma mère, qu'est-ce que c'est que ça, c'est bête. On refuse une femme qui pèse peut-être 50 kilos, le chien va peser 10 kilos, ça fait 60, et on va accepter un gros bonhomme qui fait 95 kilos parce que c'est un être humain. Je trouve ça bête, je dis. Ma mère était de mon avis. Mais j'avais 6 ans. Et puis, le temps a passé. L'histoire de... J'avais quelque chose d'instinctif qui me rattachait déjà à l'hindouisme. C'est-à-dire, mes parents ne mangeaient de viande que le jour de fête, ne m'en offraient pas puisque j'avais dit non et non, j'en veux point. Ils savaient très bien d'ailleurs que je les haïrais s'ils me forçaient, s'ils essayaient de me forcer. Ils ne m'ont jamais essayé. Mais à l'école, j'avais déjà 6 ans, pour la fin de Sainte-Catherine, on nous a offert du saucisson, un petit goûter. Et quand j'ai refusé le saucisson, on m'a mis dans la même assiette naturellement. Des pommes de terre, je ne me rappelle plus autre chose. J'ai refusé ça. J'ai dit non, c'est dans la même assiette. Ça a touché. Ça... Non, j'avais un instinct comme les hindous. Exactement, un hindou aurait refusé de manger dans la même assiette où il y avait eu un morceau de viande. J'avais une sorte de prédestination déjà à cet âge-là. Et puis, est arrivé, je ne sais pas quel âge j'avais, moins de 8 ans et demi, toujours. C'était avant la première guerre. Et j'avais 8 ans et demi, presque 9 ans, quand la première guerre s'est déclarée. Là, nous étions au parc de la Tête d'Or. Nous avions été voir les biches, nous avons été nous installer quelque part, ma mère sur un banc, et moi avec un seau, je faisais des pâtés de terre, m'amuser. Il s'est mis à pleuvoir. C'était très près de l'entrée de la rue Tête d'Or. Ma mère a dit, et nous n'avons pas le temps de rentrer chez nous, nous habitions en ce temps-là, 107 rue Bossuet au 5e, la même maison où nous étions avant. Nous sommes restés juste 3 ans, au 27 boulevard des Brotteaux. Et puis nous allons aller au musée Guimet, c'est tout près, nous serons à l'abri. Nous allons au musée Guimet. Ma mère me dit au musée Guimet, tu veux voir quoi? Les antiquités ou les bêtes? Je dis les antiquités parce que les bêtes seront empaillées. Je ne veux pas voir des bêtes empaillées. Ni des bêtes mortes. Il y a de très bons... Je dis des papillons, ils les ont piqués avec une aiguille probablement pour les tuer. J'aime pas ça. Je veux voir les antiquités. J'ai vu des momies égyptiennes. J'ai vu un bas-relief du roi assyrien Assurbanipal. Le dernier grand roi assyrien du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, je me rappelle très bien de ça. Je me rappelle très bien de son bracelet. Un cercle d'or avec un cercle dessus. Ça ressemblait vaguement à un bracelet montre. Mais je n'ai pas fait le rapprochement du tout. Et puis, nous sommes montés le grand escalier. Il y a des estampes japonaises des deux côtés, sur les murs, et puis sur le mur d'en face, des peintures tibétaines, des peintures siamoises, une odeur d'encens et de bois de santal dans l'escalier. J'ai respiré ça, Maman, je peux venir ici tous les dimanches? Elle m'a dit, mais oui, c'est ouvert de 2 à 5. Tu peux être de 2 à 5 tous les dimanches si tu veux ici. Nous aurons la paix à la maison au moins. Je dis, tant mieux, j'y viendrai. Nous sommes allés voir les salles, indiennes, chinoises, japonaises, toutes les salles. Et puis je suis allée pendant 10 ans, tous les dimanches de 2 à 5, toute seule au musée Guimet, en tant qu'enfant et en tant qu'adolescente, jusqu'à 18 ans. Avec l'exception de un ou deux dimanches par an, où il faisait très beau, et mes parents m'emmenaient à pied faire des grandes promenades à Montessui ou ailleurs, toujours à pied. Ce musée m'a marqué. Il y avait une grande salle indienne avec des photos de temples indiens, hindous, les temples du sud de l'Inde. Je regardais ça avec délectation. Quand je serai grande, j'irai voir ça. J'aimais beaucoup moins les choses chinoises. Il y en avait d'ailleurs qui n'étaient pas particulièrement, comment dirais-je, particulièrement agréables. Il y avait par exemple, dans la même salle que des cérémonies funèbres chinoises avec des mannequins, une cérémonie taoïste, une cérémonie confucianiste, il y avait une chaise avec des grands piquants, des grands clous de combien ça fait ça à peu près, centimètres,
10 centimètres,
5 centimètres,
non 10, une dizaine de centimètres,
non pas 10, non. Au moins 7 ou 8 cm d'eau. Il y en avait sur le siège, il y en avait dans le dos, il y en avait sous les bras, il y en avait sous les pieds. Et il y avait une inscription qui disait que ça, c'était le fauteuil sur lequel on mettait les possédés des démons, à Amoy, en Chine, un port de la côte de Chine, pour faire sortir les démons. J'ai trouvé ça horrible, évidemment. Mais de l'autre côté, il y avait des choses qui m'intéressaient. Il y avait, par exemple, un temple en miniature, en bois d'ébène, le temple dédié à la mère du dragon. Le dragon produit un éclat brillant. La mère est honorée et vénérée pour sa bienveillance. Je dis, c'est épatant, ça, être la mère du dragon, et on a un temple à soi. J'aimerais bien ça. Mais enfin, ça ne risque pas de m'arriver, je ne suis pas chinoise. Un jour, j'étais toute seule, j'avais dans ce temps-là 7 ou 8 ans, j'ai tiré la grande natte dans le dos d'un des mannequins chinois, dans la salle du musée Guimet. La salle était cirée, naturellement, comme toujours. La tête s'est retournée. J'ai eu tellement peur que ce mannequin devienne vivant, qu'il me court après. J'ai glissé et je suis allée m'étendre de tout mon long au pied du gardien de la salle à l'entrée. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as, mon petit? Je lui ai dit, j'ai rien. Je n'ai pas voulu dire que j'avais tiré la tresse du chinois. Il ne m'aurait plus permis d'en venir. J'ai pensé qu'il ne me permettrait plus, j'ai rien dit. Et puis, j'ai vu la salle japonaise. La salle japonaise m'a beaucoup plu, tout à fait en haut. Les étangs japonaises, j'ai appris là-dedans le musée Guimet et de très bonne heure toute l'histoire de l'Asie, les légendes du Japon, l'histoire des Ronin. L'histoire est une histoire vraie, l'histoire des Ronin. Elle est du 4 février 1702. C'est l'histoire de 47 samouraïs qui se sont donné la mort rituellement après avoir tué celui qui avait causé la mort de leur maître, leur daimyo. J'ai vu le pavillon de Taiko en reconstruction tout à fait en haut du musée Guimet. Ça me plaisait énormément. La simplicité de la maison japonaise et puis ces grandes, comment dirais-je, ces grands cryptomérias, ces cigognes en bas-relief, tout ça, ça me plaisait. Mais la salle hindoue a attiré mon attention peut-être plus encore. Il y avait dans la salle hindoue au premier, la salle japonaise était au second, il y avait les 10 avatars de Vishnu, les 10 statues des différentes réincarnations du dieu Vishnu. Et il y avait la déesse Kali, il y avait, que sais-je, énormément de dieux du panthéon hindou. J'allais naturellement à l'école, dans une école catholique, et après le musée Guimet fermé à 5 heures, j'allais tout seul, rue Ney, numéro 39, où habitait ma tante, la sœur de ma mère, très pieuse, la tante qui m'apprenait la Bible. Elle me faisait lire tous les dimanches, le matin alors, un chapitre de l'Ancien Testament et un chapitre du Nouveau. Il ne fallait pas que je critique, il ne fallait pas que je trouve le fait du prophète, soi-disant, Samuel, coupant le roi Agag, roi des Amalékites, en morceaux tout vivants, il ne fallait pas que je trouve ça horrible. Si je le disais à ma tante, elle me disait, tu ne dois pas discuter avec ton créateur, c'est un prophète de Dieu. Et puis, je détestais surtout l'idée que les Israélites étaient le peuple choisi de Dieu. Et pourquoi pas les Grecs, je disais à ma tante. Pourquoi pas les Anglais, pourquoi pas les Français, pourquoi pas d'autres gens. Il y en avait dans l'Antiquité qui étaient grands. Les Perses, n'importe qui, les Chinois même. Non, c'était la volonté de Dieu. C'était sa promesse à Abraham. Je trouvais que, n'est-ce pas, l'idéal judéo-chrétien de ma tante, le fait qu'elle me disait qu'un jour le Christ reviendrait, et puis alors les Juifs se convertiraient naturellement, ça serait un seul peuple chrétien. D'ailleurs, les non-chrétiens seraient tués, passeraient au fil de l'épée, comme dans l'Ancien Testament. Et capitale Jérusalem, Jérusalem serait la capitale du monde avec le règne du Christ. J'ai trouvé que ça allait un peu loin. Mais je ne disais rien. Je tenais ma langue. Je ne disais rien du tout. Je me suis dit, je vais la prendre, la Bible. C'est la plus belle collection d'atrocités juives que je connaisse. Quand je serai grande, je m'en servirai. Et Dieu sait si je m'en suis servi. M'en suis servi dans mes discours pro-hitlériens en Inde et ailleurs à Tir-Larigot. Je dois remercier ma tante. En tout cas, quand je l'ai chez ma tante, après le musée Guimet, avec ma mère, elle disait toujours à ma mère, « Pourquoi la laisses-tu aller voir ces choses païennes-là? Elle va perdre la foi. » Elle ne se doutait pas que je l'avais déjà perdue. Moi, je ne disais rien. J'ai appris à me taire. Ma mère n'était pas fanatique du tout, elle. Elle était au contraire très large d'esprit, tout le contraire de sa sœur aînée. Un jour, je reviens chez moi, de chez ma tante, avec qui je n'avais absolument rien dit, et je dis à ma mère, est-ce que je peux? On nous dit à l'école, n'est-ce pas, l'école catholique, on nous dit qu'il ne faut pas prier que Dieu, que Jésus-Christ, et dans il y a des statues de Dieu, c'en est plein dans le musée Guimet, il y a la déesse Kali. Il y a une inscription au bas de la déesse Kali. Ça dit qu'elle ne pardonne pas. Moi, je voudrais la prier. Parce qu'elle ne pardonne pas. Je n'aime pas le christianisme parce qu'il faut pardonner. Quand pardonner, je comprends. Est-ce que je dis? Je comprends qu'on pardonne à des gens qui vous ont fait à vous-même du mal, mais je ne comprends pas qu'on pardonne, par exemple, aux gens qui font du mal aux bêtes, ou aux gens qui font du mal à d'autres personnes qu'on aime. Et le christianisme dit qu'il faut pardonner à tout le monde, même à ses pires ennemis. Et il oublie de vous dire qu'il ne faut pas tuer les bêtes. Ben ça, ça ne me plaît pas. Je voudrais prier la déesse Kali. Ma mère m'a répondu, prie qui tu veux. Ça n'a aucune importance. Je dis, c'est vrai. Elle me dit, oui, c'est vrai. Alors je dis, pourquoi est-ce qu'on nous dit à l'école que tout le monde doit prier la même chose? Ma mère m'a répondu, et je me suis toujours souvenu de ses paroles. Prier est naturel à l'homme. Adorer est naturel à l'homme. L'homme sent tous les hommes sentent qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux. Tous adorent. Tous n'adorent pas la même chose, mais ils adorent. Tous ne mangent pas la même chose. Tous mangent. En Chine, on mange du riz. Au Japon aussi. En Inde en particulier aussi. On mange aussi du blé. Au Mexique, on mange du maïs. En Afrique noire, on mange du millet. On mange des céréales. On mange toujours, mais pas la même chose. C'est pareil. On adore toujours, mais on adore Dieu, on adore le divin sous une forme différente. J'ai trouvé ça très bien chez ma mère. Ça m'est resté. Ça m'est resté. Je lui en suis très reconnaissante. Elle m'a demandé, par exemple, pourquoi veux-tu prier la déesse Kali? Je dis parce qu'elle ne pardonne pas. Alors, elle va frapper ceux qui font du mal aux bêtes. En particulier, les autres enfants que je connais qui prennent des papillons, qui les épinglent de tout vivant et qui les laissent battre des ailes jusqu'à ce qu'ils meurent. Je trouve ça horrible. Elle devrait les punir. Et puis les gens qui font des expériences sur les bêtes. Moi, quand je serai grande, je ferai ces expériences-là sur des Turcs, je disais, parce que pour moi, le Turc était l'ennemi. Très bien. Je comprenais qu'on le fasse sur des ennemis, mais pas sur des bêtes. Et j'avais horreur de la profession médicale à cause de ce qu'on me racontait que les médecins, quand ils étaient étudiants, ils faisaient des expériences sur les bêtes. Autre chose, là j'avais un peu plus de 6 ans, j'avais eu mon premier prix à l'école. Mon premier prix, ça s'appelait le ruban rouge. C'est une histoire d'Alsace, de l'Alsace immédiatement après 1870. Il y avait les héros du livre, c'était un couple, Franz et Lisbeth. Le ruban rouge, c'était la croix de la Légion d'honneur. Je me rappelle de ce livre. Et puis, je me rappelle aussi d'un autre livre qu'on m'a donné à l'école aussi, traduit de l'anglais. Alors que je pouvais le lire en anglais, ma mère l'avait, elle a d'ailleurs acheté en anglais, elle me l'a lu en anglais. Et mon père l'a lu en français. C'était Oliver Twist de Dickens. Dans Oliver Twist, il y a un horrible caractère de juif, Fagin. Il s'amuse à entraîner des jeunes gens qu'il a attrapés, des petits gamins de la rue, à voler des porte-monnaies, à voler des mouchoirs, à voler des choses. Et le malheureux Oliver Twist, qui est parti d'une maison d'un orphelinat, on l'avait enfermé, parce que ses parents étaient inconnus. On a trouvé sa mère mourante et on n'a pas trouvé de papier sur elle, ni d'alliance. On a pensé qu'ils étaient un enfant naturel. En réalité, son père avait été tué dans la révolte des Sipayes, 1857, aux Indes. Et ma mère me l'a dit. Ma mère était très, très large d'esprit. Alors, je lui demande, pourquoi est-ce qu'ils ont tué son papa aux Indes? Elle me dit, parce que les Indiens voulaient leur indépendance. Les Anglais n'avaient que faire aux Indes. Pourquoi ont-ils conquis tant de colonies? Ils n'aimeraient pas être conquis, eux. Pourquoi conquis? Et puis, ils ont fait des choses horribles aux Indes. Ils attachaient les révoltés aux bouches des canons vivants. Les canons partaient, ils mettaient le cipaye en morceaux. Alors, ma première question, drôle de question, après une telle description. Maman, à quoi ressemblent les hindous? Est-ce qu'ils sont beaux? Mon père était là, il a compris la question, il ne savait pas l'anglais, mais il savait un peu d'anglais quand même. Il m'a dit, oui, en général, surtout les hautes castes sont belles, c'est des gens comme nous, les hautes castes sont aryennes comme nous, elles sont peut-être un peu moins clair, enfin comme des Européens du Sud. Et puis il y en a qui sont un peu plus foncés, et puis de plus en plus foncés, à mesure qu'on descend dans l'échelle des castes. Mais en général, les hindous sont beaux. Quand j'ai entendu ça, je dis à maman, dans ce cas-là, je suis contre les Britanniques. C'est-à-dire que si les Indiens avaient été laids, ça m'aurait été égal que les Britanniques les attachent après des canons. Mais qu'on fasse du mal à des êtres, quels qu'ils soient, à deux pattes ou à quatre pattes, qui sont beaux, ça me révoltait. Je suis tombée malade à ce moment-là. J'avais 7 ans, à peu près. On avait cru que j'avais l'appendicite, mais enfin, on m'a traité sans m'opérer. Je ne voulais pas d'opération, surtout ça laisse une marque. Je ne voulais pas de marque. On m'a traité sans opération, mais je suis restée au lit peut-être 6 semaines. Ma mère avait une femme de service, une femme de ménage, disons, qui venait de temps en temps. La mère Duprat, elle s'appelait, qui avait aussi un fils. Un jour, ma mère était à mon chevet avec Madame Duprat. Madame Duprat lui a raconté que quand elle était jeune, que son fils, qui avait alors 30 ans, était un gamin, il avait été malade et qu'elle avait ouvert vivant un malheureux pigeon coupé en deux et appliqué sur la poitrine de son fils. Et ça l'avait guéri. Ma mère était horrifiée, absolument horrifiée. Elle dit, vous avez pu faire ça, Madame Duprat, mais c'est horrible. Elle dit, Madame Porta, si vous l'auriez fait vous-même ou vous auriez ordonné si c'était pour sauver votre fille. Vous n'en avez qu'une, comme moi j'avais qu'un fils. Ma mère lui a répondu, et j'attendais sa réponse. J'attendais sa réponse, suspendue à ses lèvres. Elle a dit, jamais. Je préférerais qu'elle meure, plutôt que de la sauver au prix d'une telle atrocité. Plutôt la mort que le déshonneur. Hein, si j'avais fait une chose pareille, ou ordonné une chose pareille, j'aurais déshonoré ma fille. Et j'aurais déshonoré moi-même et ma fille. Jamais j'aurais fait une chose pareille. Qu'elle meure, ça c'était sa destinée. Immédiatement, je dis, maman, comme je suis contente que tu aies dit ça. Comme je suis contente que tu aies dit ça. Si tu n'avais pas dit ça, si tu avais parlé comme Madame Duprat, quand j'avais 21 ans, je ne t'aurais plus parlé. Je serais restée chez toi jusqu'à 21 ans pour me faire faire mes études. C'est-à-dire pour t'exploiter. Et après, je ne t'aurais plus regardé. Je lui ai dit ça. Elle l'a accepté. Elle l'a compris. Et maintenant, à 77 ans, quand je pense à cet épisode qui est vieux de 70 ans maintenant, je me dis en effet, il y avait des choses chez ma mère pour lesquelles je lui suis reconnaissante, pour lesquelles je lui pardonne beaucoup. Pour cette parole, j'aurais préféré voir mourir ma fille que de la déshonorer par un acte de lâcheté et d'atrocité sur une bête. Pour cette parole-là, je lui pardonnerai même, excusez-moi, sa participation à la résistance. Car elle a participé à la résistance. Elle n'a pas fait des choses bien, bien tragiques. Elle n'a pas fait sauter de train, heureusement. Alors là, je ne lui pardonnerai pas. Elle a simplement été une boîte aux lettres pour certaines résistances. Mais enfin, elle avait 80 ans. En 1945, elle ne pouvait guère faire que c'est quelque chose de mieux. Mais même ça, au regard de ce qu'elle m'a dit, au regard de la liberté qu'elle m'a donnée, de la largeur d'esprit qu'elle avait, du fait qu'elle m'a laissé grandir comme je voulais. Et quand j'ai choisi mon idéologie, j'avais 23 ans, c'était en 1929, elle n'a pas protesté. Elle n'a pas protesté, même pendant la guerre. Elle ne m'a jamais dit tu ne devrais pas être, n'est-ce pas, partisan de cet homme-là ou quoi que ce soit. Elle m'a toujours laissé libre. Elle n'a jamais essayé de m'influencer. Après cela, je vois le déroulement de l'école. L'école libre, c'était bien. On nous racontait, par exemple, des histoires qui n'étaient pas toujours véridique et que ma mère corrigeait. Il y avait une certaine mademoiselle Guichard qui faisait le catéchisme aux petites filles, qui leur racontait des histoires. Parmi les histoires qu'elle racontait, il y avait l'histoire soi-disant de la reine Élisabeth d'Angleterre, qui avait brûlé des catholiques, selon la coutume de l'époque, parce qu'ils n'étaient pas protestants et qu'elle était protestante. La reine Élisabeth, disait-elle, aurait vendu son âme au diable pour 30 ans de toute puissance. J'ai entendu ça. Elle a dit, oui, quand les gens vendent leur âme au diable, il faut qu'ils écrivent une lettre, ils la signent avec leur sang. Le diable vient à minuit, il prend la lettre, et après, c'est très difficile de la revoir. On est damné. Moi, je dis à la maîtresse, madame, quand je serai grande, je vais écrire au diable. Malheureuse, une malheureuse, dis pas ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, je dis non, vous n'avez pas entendu la fin de ce que je vais dire. Je vais l'appeler le diable. J'avais peut-être 8 ans. Je vais l'appeler le diable. Et j'aurai une lettre dans la main, mais ce ne sera pas la bonne. Je ne la lui donnerai pas, toujours. J'aurai un revolver derrière moi. Et quand il viendra, je le tuerai. Quand on tue un roi, un président de la République, on a son nom dans tous les journaux, en première page. Si on tue le diable, qui est quelqu'un de bien plus important que tous les rois, on a certainement son nom dans les journaux. J'aurai mon nom en grandes ou grosses lettres comme ça le lendemain. Le diable est mort et c'est Mademoiselle Portas qui l'a tué.